23h30 le mercredi, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de lu et approuvé. Lu et approuvé.
Je serais comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérons bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Tu veux un ballon? Pourquoi faire?
Du miel.
Mais quel rapport entre du miel et un ballon?
Il y en a un.
Lequel?
Je veux voler comme une abeille. En haut de l'arbre à miel, vu?
Mais attends un peu. Tu ne tromperas pas les abeilles, tu sais?
Si, tu verras.
Et t'es déguisé en quoi?
Moi, je suis un petit nuage noir, Ryu.
Quel gros bêta.
Lance-moi sur l'orbite des abeilles, s'il te plaît.
Fais attention. Tiens bien la ficelle.
Oui.
Deux.
Oui.
Un.
Oui.
Zéro.
Oui.
Partez.
Je suis un tout petit nuage noir qui roule et tangue au gré du vent. Un frêle, timide nuage noir qui se promène innocemment. Au chacun sait bien qu'un nuage noir jamais ne mangera du bon miel. J'ai mes gouttes de pluie qui s'amoncellent. Je me demande où pleuvoir. Écoute, Jean-Christophe, je crois que les abeilles soupçonnent quelque chose.
Vous êtes bien sur Canal Sud, voilà, un petit Winnie l'ourson pour commencer cette émission. Étrange me direz-vous, peut-être pas tant que ça, puisque ce soir on va parler de nuages, d'envol et peut-être de ballons, qui sait. Et on va vous parler d'un auteur qui s'appelle Thomas Vineau, auteur toulousain, oui messieurs et dames, qui nous écoutez en direct à Toulouse. Thomas Vineau, qui a écrit beaucoup ces 4-5 dernières années, beaucoup de poésie essentiellement, mais aussi quelques romans, dont La part des nuages, qui est sorti en 2014 chez Alma Éditeur, un éditeur parisien. Donc ce soir, ce sera La part des nuages dans Lu et approuvé.
Ce jour-là ne fut le jour de rien, justement. Pourtant, il n'était pas pire que les autres. Pas de changement notable, pas d'événement, aucune surprise naissante. Aucun début, aucune fin, aucun rebondissement. Rien de flagrant si ce n'était sa concordance tiède avec hier et demain. Lui ne s'était pas levé transformé en cafard. Personne ne venait de mourir. Il n'a pas décidé de changer quelque chose, ni de faire comme avant, ni de regarder autrement. Ni de regarder autre chose. Il s'est levé avec le jour, il a suivi l'ascension graduée de la lumière, il a couru derrière, il a fait ce qu'il avait à faire, conserver ce qui pouvait être conservé, protéger les siens, faire les courses, ravaler ses insultes, mis un pied devant l'autre. Il a été un homme, un peu pénible, un peu bon. Il ne fut ni honteux ni fier, fatigué, comme chaque soir. À l'abri, comme chaque soir, plutôt content que les choses se passent normalement. De là où il était, il pouvait veiller sur son monde. Sur place, sur la terrasse, sa chaise grise en plastique, son cendrier, le ciel, la porte. Il savait que dedans, le temps avait ralenti avec l'arrivée du soir. Noé dormait à présent, le calme était revenu. Il entendait le bruit de l'eau des pâtes en train de bouillir dans la cuisine. De là où il était, la bataille insignifiante du jour était terminée. Il avait droit au repos. Ses yeux allaient se perdre dans le vide qui se cache derrière la lumière. Et c'était plutôt agréable de couler sur la surface, de s'enfoncer dans le coton du rien, de disparaître, sans l'effort de comprendre ou de modifier quoi que ce soit. Ses yeux babillaient d'un reflet à l'autre et finissaient par rebondir dans le ciel gorgé d'eau. Il avait plu toute la journée, de ces vives pluies d'avril qui rincent l'horizon. Dans la lumière du soir, le soleil avait recommencé à briller, ce qui donnait à ce crépuscule de faux airs d'aurore. Au-dessus de sa tête, à perte de vue, l'immense bleu immense, parsemé ici et là de ces beaux petits nuages dodus d'après l'orage, tout replets et joufflus. Bien gonflés d'eau et de lumière, son regard qui ne regardait rien précisément s'attardait sur leur forme, leur densité, les nuances de leurs couleurs. Quelque chose le dérangeait. Le réveil soudain sans qu'il puisse le formuler. Il se redressa sur sa chaise, plantant ses yeux dans les formes blanches avec virulence et énergie. Mais le résultat fut le même. Rien. Ce rien si confortable jusqu'à présent, cette absence générale d'acuité, de perception, de définition dans laquelle il avait laissé légitimement aller sa fatigue et qui s'accordait si naturellement avec ce soleil finissant sur les choses et les hommes. Ce vide molletonné ne pouvait pas s'expliquer ici. Il redoubla d'efforts, plantant ses yeux dans le cumulus et les nimbus, énumérant toutes sortes de mots qui pourraient relancer la bête, la machine, l'imagination, passant d'un nuage à l'autre, presque frénétiquement. Il fronça les sourcils et s'inquiéta. Peut-être même qu'une légère peur commença à l'envahir. Rien n'y fit. Il ne parvenait plus à distinguer la moindre forme, le plus petit visage dans les nuages. Le matin, il faut faire très vite. Le matin est une maison qui s'effrite. Tout est précis, réglé, tendu. Le réveil, la douche, le petit déjeuner de Noé, le café. Passage de relais des informations, de la radio au dessin animé de la télé. Toilette de Noé, habits de Noé, manteau, cartable, voiture, chansons de Noé. École de Noé, bise rapide et baveuse de Noé. Retour à la radio. Voix rapide, mouette dans le rétroviseur, parking de la bibliothèque, moteur coupé. La trace sèche et invisible du bisou de Noé. Portière claquée, collègue, faux sourire, c'est parti jusqu'au soir. Toute la journée est réglée, jusqu'au crépuscule qui recommence dans l'autre sens. Faux sourire, parking, voiture, autoroute, radio, école de Noé, voix de Noé. Là, les choses se défont, se libèrent, se dissolvent dans la langue de l'enfant, dans le chemin du retour aussi. Petit à petit, le corps se détend et on commence à fondre.
Alto cumulus. Alto cumulus lenticularis, alto stratus, cirrocumulus, cirrostratus, cirrus, cumulonimbus, cumulus congestus, cumulus humilis, nimbostratus, stratocumulus, stratus.
Il referme le livre. Il a répété chaque nom calmement et à voix haute. Il a fermé les yeux, puis les a ouverts, puis les a refermés à nouveau, en accentuant la pression des paupières. Il a plongé sa tête sous l'eau, soufflé par les narines en faisant de grosses bulles. Ce sont des noms de dieux grecs, ou ce sont des noms de gladiateurs romains. Ce sont des noms de microbes ou de maladies. C'est une formule de sorcière, ou une formule chimique. Ce n'est pas ça, les nuages. Noé joue à côté de la baignoire. Il rit en voyant la mousse sur la tête de son père. Il rit lorsque son père, ne laissant plus poindre que son gros nez à la surface de l'eau, souffle de toutes ses forces, accélérant les tourbillons des méandres blancs d'eau et de savon. Il rit encore plus fort au moment où il aspire par le nez et tousse en buvant la tasse. C'est rassurant de pouvoir le faire rire. Dans la baignoire, il y a des nuages. pile ou face. On vit toute une vie avec ça. La peur ou la joie. Être une pièce. On tombe d'un côté ou de l'autre. On choisit plus ou moins de quel côté on tombe. La joie est le dos de la peur. Quand l'une s'éloigne, on distingue le sourire sur le visage de l'autre. On est les deux, une pièce, qui vole en l'air, qui tourne, qui tombe. S'il n'y a rien ou personne pour nous lancer une nouvelle fois, on reste en bas. Le visage couché dans la poussière. L'idéal serait de rouler sur la tranche. C'est un idéal. Ou de rester en l'air, à voltiger, éternellement, jusqu'à ne plus avoir besoin de distinguer le sol du ciel, comme un martinet, un nuage, un yo-yo, un enfant. Comme lorsque Noé montait sur les épaules de son père. Là-haut, jambes serrées, mains sur la tête ou autour du cou, là-haut, peur et joie mêlées, ce que cela procure de voir un peu plus loin. Ce sentiment de vivre, d'être l'espace, le mouvement, le vent frais, la lumière, d'être le premier à goûter les gouttes, d'être le plus près du ciel. Ce cri de force et d'excitation dans la gorge de Noé, et pour lui qui reste en bas, en dessous, les deux pieds bien stables sur la terre, pour celui en aval, ce que cela procure de hisser quelqu'un qu'on aime, un peu plus haut, un peu plus loin. Un gigantesque papillon de nuit est accroché à un pied de chaise sur la terrasse. Il est là depuis une bonne semaine. Il est énorme. Il fait la taille d'une main ouverte. Blanc, gris, marron et noir. Avec des yeux de chouette dessinés sur les ailes et des poils sur les pattes et l'abdomen. Il doit venir de loin, de très loin. D'Afrique ou de Sibérie, du Brésil, de Mongolie. Il reste là, immobile. À l'abri de la pluie, mais pas du vent, ni du froid. De temps en temps, il bat doucement des ailes. On ne sait pas s'il attend quelque chose ou s'il agonise. Il reste là. Tu parles d'une vie. Parcourir le ciel, traverser les océans, pour se retrouver ici, seul, de l'autre côté du monde, sur un pied de chaise. Quand on s'intéresse un peu objectivement à la question, le champ des possibles donne le vertige. Des castors qui arrêtent des fleuves, l'eau qui peut fragmenter la roche, Gandhi qui libère un continent sans prendre les armes, la transplantation d'un cœur humain, ça a de la gueule. Mais pour ce qui est parfois d'atteindre le soir ou le lendemain, ou de trouver une raison de sourire, ou un moyen de s'endormir un peu, juste endormir un peu, tranquillement, paisiblement, ben là il n'y a plus personne. Le grand pan de nuit reste sur son pied de chaise, au ralenti. Joseph sur la sienne, au ralenti. Pas d'ouverture à l'horizon, pas de respiration de secours. Attendre d'atteindre le printemps. Il faudrait entailler les nuages, tailler une brèche dans le ciel, une issue de secours. Un endroit par où filer en douce, trouver la faille et la creuser, comme Steve McQueen dans Papillon. Tenir le coup, retenir les coups. Agrandir la brèche et se carapater dans le grand bleu du ciel. Joseph adorait ce film. Il adorait tous les films d'évasion. Quoi de plus universel qu'un film d'évasion ? Chacun son injustice, chacun son bagne, chacun son tortionnaire, chacun son Dustin Hoffman, chacun sa façon de hurler. Bande de fumiers, je suis toujours vivant ! Les choses arrivent sans qu'on les voie. Si les mauvais coups avaient des clochettes aux pieds, on le saurait. C'est la faute à personne. Chacun obligé de mettre un jour devant l'autre. Pour être tout à fait sincère, il avait un peu vu la grisaille pointer son nez. Une sorte de déception latente dans les yeux de sa femme. Des silences fatigués, des sourires un peu forcés, même pendant l'amour. Tout ça dans le siphon siphonné des problèmes de sous, de voisins, de boulot, de crédit, de famille, de fuite d'eau. Beaucoup de bruit pour rien. Et Noé au milieu avec du froid dans les yeux, jusqu'au matin où elle lui a dit « Je vois quelqu'un. » Il ne lui en veut pas. C'est une forme de lâcheté aussi de faire semblant, sans y croire vraiment que rien ne pourra changer. C'est la faute à personne. Maintenant que Noé est grand, elle voudrait rattraper le retard. Formation accélérée, nouveau job, déménagement. Elle a raison. « Ce serait bien que vous restiez tous les deux pour l'instant avec le petit. » Et puis tu pourras garder la maison. On s'arrangera pour les parts de crédit. Noé sera mieux là. C'est elle qui l'a toujours connu. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le pire, c'est qu'elle a raison. y est. Les mouches sont revenues. Les premières de l'année. Toutes nouvelles, toutes fraîches. Prêtes à digérer toute la merde du monde. L'orage d'il y a quelques jours a dû les réveiller. Lancer la course. Le mensonge de la viande et de la lumière. Les mouches sont revenues. Ça doit bien signifier quelque chose. Un mouvement, un cycle, un truc. Elles sont petites, très vives, excitées, affamées, instables. Elles virevoltent, font des ronds qui ressemblent à des carrés, s'attardent sur les verres souillés de la table. Elles goûtent avec leurs pattes. Il en entend quelques-unes, inconscientes, qui s'attaquent à la lumière en vrombissant de toutes leurs ailes contre la vitre. Pauvre diptère sur son carreau sale qui croit escalader le jour. Il s'approche de la porte vitrée et les écrase une à une, avec son pouce, par compassion ou par pitié. Leur matière les dégoûte passivement. Il épargne néanmoins la dernière, celle qui n'essaie pas de traverser le verre, celle qui semble posée, immobile, résignée. Il approche son doigt au-dessus d'elle pour lui signifier tout de même qu'elle est une survivante. La mouche reste tranquille, impavide, nonchalante. Aucun appétit de vie à signaler. Aucune illusion. La mort et la larve. Une miette et un monde. Rien d'autre. Les mouches qui s'agitent sont celles qui croient vivre, pas celles qui savent mourir. Il retourne s'asseoir devant son bol avec une certaine forme de respect.
Être libre, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, être libre, c'est renoncer.
Le philosophe de service qui déblatère à la radio accélère son processus matinal de vidange intestine. Le rosé ingurgité abusivement la veille a transformé l'intérieur de son crâne en un désert aride. Il coupe la radio, ouvre la fenêtre, la ferme, allume à nouveau la radio. Rien ne va, rien n'est mieux. La cuisine est parfaitement vide et sale. Comme le jour qui se lève, comme ses yeux qu'il laisse traîner dans la lumière neuve du jardin. Il les jette contre le ciel le plus loin possible comme pour le cogner du regard. Mais il y a un mur gris et bas au loin que la lumière ne traverse pas. Alors ses yeux en bonne balle perdue rebondissent au fond de son bol. La piscine en plastique rouge gît éventrée dans l'herbe. Elle n'a pas tenu sous son poids. Il a l'impression étrange que les fleurs de pissenlit se moquent de lui.
Certains élans dépressifs ne révèlent qu'une attitude narcissique et régressive,
continue le philosophe de service. Il jette la radio dans l'évier puis attrape une feuille et un stylo avant de s'asseoir à la table de la cuisine. Un double cachet effervescent d'un gramme d'aspirine vitamine C gazouille dans sa prison de verre.
Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps, pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville, on n'aime pas parler. Qu'ils viennent vivre à 1000 mètres carrés, chacun son cube. Y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord. Soleil du Nord. Soleil du Nord, quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown sous des fenêtres. Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville, un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvages. Au premier rayon, on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à l'accent chaud. On ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres, nous cotisons. Je voudrais vous y voir accourir les bidonvilles, rêvant de tour d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord. Soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire. C'est voir la mère à 20 ans, 19 étés de galère. percée dans d'horribles jeans, entre l'avenir et nos origines, au fond ça va dans l'hexagone. On cherche les ficelles, tire sur la corde, on se passe de conseils. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Après les caisses, il tombe sur une promotion signalée à grands coups de marqueurs fluo. Un kit professionnel pour étudier les étoiles. Le télescope semble assez performant. Il attrape la boîte sans plus de considération, puis vient se coller à la queue devant la caisse numéro 3. La caissière est une blonde fatiguée. Elle a les yeux trop maquillés, les traits tirés et des strass sur les ongles. De temps en temps, une main appliquée, elle masse son épaule qui semble endolorie. Joseph se demande si les étoiles sur ses ongles sont tombées de ses yeux. En sortant, il croise un homme puant, sale et barbu, qui se fait refouler du flunch. Il baragouine en remuant les bras. Apparemment, il a de l'argent, mais ce ne sont que des centimes. Un gros sac en plastique plein de centimes. L'agent de sécurité refuse de le laisser rentrer. En passant, Joseph glisse un billet de 5 euros dans la poche du clochard. Une dame, qui semble habiter dans les couloirs, s'approche de lui en hurlant. Elle porte une tenue de mi-saison, ample et confortable, couleur anis, et de gros bijoux ethniques en graines, en corne ou en bois, qui font du bruit lorsqu'elle remue les bras.
Et ne lui donnez pas d'argent, il a une pension, il s'en sert pour se droguer.
Elle est toute rouge, dégage un mélange de sueur et de crème parfumée. Elle exulte. Sa voix est aiguë, coupante, parsemée de postillons épais. « Oui, je comprends, » dit Joseph. Il retourne sur ses pas, reprend son billet de 5 euros et le remplace par son billet de secours qu'il garde au cas où dans la plus grande poche de son portefeuille. 50 euros. Le silence ébahi de la dame lorsqu'il repasse à côté d'elle, est rose et légèrement sucré. Il suffit de 2 ou 3 jours pour commencer à sentir raisonnablement le fennec. Joseph s'en rend compte ce soir devant la pizzeria du parking. La dame derrière lui le regarde avec insistance et mépris. En apercevant le reflet de sa tête ébouriffée et sale dans la vitre du camion, il commence à comprendre. À moins que ce ne soit le petit sac qui gigote dans son dos, à chaque coup de patte. Il a préféré prendre Odile avec lui pour aller arpenter le vide de la nuit. En fait, il est juste venu se payer une pizza, mais après réflexion, agrémentée d'une canette de 8-6, il resterait bien un petit peu dehors. Pendant qu'il attend d'être servi, la dame le regarde à nouveau d'un air dubitatif, ce qui lui donne envie de faire le zouave en sortant Odile de son sac pour mimer un langoureux baiser. Un groupe de jeunes s'exclave à côté de lui. Il reconnaît parmi eux la voisine flûte traversière. Repousser ce moment où l'instant capitule, pousser des pieds la nuit, s'étirer tranquillement et prendre de la place, se donner de la place, là, ici, maintenant, entre chien et loup, au mi-temps de la défaite et des rêves. Quel drôle de pli on prend à attendre de vivre, quelle drôle de manière de courir ainsi après la fatigue et de laisser demain prendre la place d'aujourd'hui. La peau du temps est comme la membrane élastique d'une bulle de savon. Elle ne s'éprouve vraiment qu'au moment où elle explose. Restent les reflets et la lumière emprisonnée à l'intérieur. Joseph pense à Noé qui ne veut pas aller se coucher, qui veut persister à prendre toute la place du moment comme on s'étale dans un lit, qui fait plier le temps au risque de s'alourdir les paupières. Joseph regarde ce groupe d'adolescents qui rit fort, qui se font tourner la petite fumée bleue de l'obscurité, qui roulent des épaules, qui se touchent, qui s'embrassent, qui perdent l'équilibre. Joseph regarde Odile, ses pattes qui s'agitent, la pelleteuse du vide prête à creuser l'obstacle jusqu'au dernier souffle. Joseph regarde les étoiles filantes des phares des voitures qui tracent à l'horizon des lignes éphémères. Sur le pont là-bas, qui enjambe le brouhaha du fleuve, qui domine la vieille ville, un homme avance contre le vent et on dirait qu'il se tient sur la proue d'un navire. Joseph ne veut pas rentrer. Il a entendu « allumette », mais en se retournant, il comprend un « salumec » pas très vaillamment articulé. Il reconnaît le type du flunch, le crado avec son sac de centimes.
Merci pour le billet de l'autre fois. C'est pas tous les jours, hein ?
De rien, dit Joseph. Tu veux de la pizza ? Moitié anchois, moitié chorizo.
Bordel, c'est ambitieux, ça.
Ouais, je sais. C'est parce que ma femme détestait les deux.
Ok, allons-y. Et je te paye une binouze.
Allez, ok.
On m'appelle Robin,
dit le bonhomme. Moi, on m'appelle pas, mais je m'appelle Joseph, répond Joseph. Robin comme le vendeur de bois ?
Ah, c'est pour faire court. Mon prénom, c'est Robinson.
Chouette. Encore un naufrage, sourit Joseph. Il y a le goût métallique de la canette qui reste au bord des lèvres. Il y a l'odeur humide et touffue des fourrés qui montent dans le froid. Il y a le petit bordel en couleur des phares de voitures qui lèchent le goudron. Il y a les flaques qui brillent sur le parking. Il y a le fumet de l'anchois qui s'installe sur la peau des doigts et que l'on retrouve à chaque bouffée lorsque l'index tenant la cigarette s'approche du nez. Il y a cette odeur lourde de la cigarette, qui après réflexion n'est sûrement pas une cigarette. Il y a Robin qui dit
« C'est la galère et moi j'aime pas ramer. »
Il y a le bois du banc. Il y a le rire d'une fille qui disparaît dans l'obscurité comme une chevelure de sirène dans un brouillard océanique. Il y a le navire qui commence à tanguer un peu. Mais on n'est pas plus mal qu'ailleurs ici sur le ponton. Le vent pique le nez. Ses doigts sont noirs, abîmés, rongés. Il n'a pas des mains de bibliothécaire, plutôt de manœuvre ou de paysan. Il n'a pas des mains de feignant. Son menton et son front sont enfouis sous l'énorme capuche d'un blouson de pompier.
« Je l'ai trouvé au puce, »
dit-il.
« Il n'y a rien qui traverse, et en plus je suis parfaitement inifugé. »
Son rire est fort et franc. Il plante des clous profonds dans le silence qui commence à s'installer. La pizzeria a fermé, on doit être au beau milieu du chemin à présent, le chemin qui ramène au jour, le chemin qui ramène au monde. Ils ont parlé longtemps. De tout et de rien, des filles, des flics, du boulot, du chômage. Robin était charpentier, les compagnons et compagnie. Il peut concevoir, tailler, monter une charpente entière d'un toit, tout seul, sans machine. Plus personne ne travaille sans machine, à part des moines. Il a même fait une mission humanitaire à Madagascar. Un soir, bien chargé, il s'est endormi trop près du feu.
« C'est souvent ça, la vie, »
lâche-t-il en ricanant.
« On s'endort trop près du feu. » « Je m'en fous, j'ai la côte au rep. »
enchaîne-t-il.
« J'ai donné ma part. Regarde. »
Il tend sa jambe, baisse ses chaussettes, trois par pied apparemment, remonte son pantalon et montre à Joseph les cicatrices d'une grosse brûlure qui mord le mollet et la cuisse.
« Ils m'ont pris des morceaux de partout pour me refaire. La peau du dos, du cul, partout. Tu vois ce poil sous le genou, là ? C'est un poil de cul !»
Et Robin cloue un peu plus la nuit de son grand rire pointu. « J'ai eu peur. » J'avais peur de grandir, peur de devenir comme tout le monde, peur d'accepter cette drôle de farce, peur de passer à côté, peur de la médiocrité. Et puis, j'ai un peu voyagé. J'ai eu 2-3 amis, j'ai lu 2-3 livres, j'ai rencontré 2-3 femmes, je me suis dit que ça valait la peine de jouer le jeu, d'accepter la farce. Alors je m'y suis mis, j'ai trouvé une place, j'y ai fait mon trou, j'ai aimé quelqu'un, j'ai eu un fils. Alors j'ai eu peur pour lui, peur de demain, peur de la mort, des enculés d'en face. Ils sont forts les enculés d'en face, toujours plus forts. J'ai eu peur pour lui, peur de ce qu'il allait devenir, peur de ce que j'étais devenu. Maintenant j'ai peur de ce que je ne deviens pas, et puis j'en ai marre d'avoir peur, ça marche plus d'ailleurs, j'ai plus peur. J'en ai juste marre. Une chaussette sur le trottoir, beige et bordeaux, parsemée de droupis blancs. Une petite annonce sur la gouttière. Perdu Pedro, fur et mal, 2 ans, noir et blanc, affectueux et puant. Téléphone au... Des éclats de voix dans le bistrot. Une tête de poisson, bar ou congre. pourriture arc-en-ciel qui baille d'une benne. L'eau savonneuse dont le parfum se mélange à celui des trottoirs. Une odeur d'oignon frit. Mais qui cuisine à 8h du matin? Le ciel qui parle fort, frais, à voix haute. Et le rire d'une fille que personne n'aura voulu ramasser. Voilà le petit champ de bataille que Joseph traverse, comme un fantôme, sur la pointe des pieds. De loin, il remarque un graffiti géant sur la route. Il s'approche. C'est un cœur qui prend toute la chaussée et dans lequel deux initiales se tiennent la main. Juste à côté, écrit en rouge sur 3 bons mètres de long cette phrase « L'amour est immense ». Et juste en dessous, tracé en blanc et en tout petit, « Ton cul aussi ». Quand chacun court et que le monde reprend sa ronde, ce qui est bien, c'est de se lever, de manger et de se recoucher. Voilà le pouvoir absolu, se dit Joseph en se glissant entre le matelas et la couette. Cette impression de tenir tête à la tempête. Ça caille un peu. Son nez reste rouge, mais il se sent bien sous son armure de plumes. Il a enfilé les mitaines multicolores de son fils, grignote une banane, sirote son café. Au loin, le mouvement se calme. On ne doit pas être loin des 9h. La première vague de trimeurs est passée. Les enfants crient dans les cours d'école, les livreurs livrent. Les magasins ouvrent, les passereaux nourrissent leur marmaille. Les poubelles sont vides, on peut recommencer à les remplir. Joseph attrape un rahan et se plonge tièdement dans les âges farouches. Adolescent, il pouvait passer des heures, des après-midi, des journées entières le nez entre les pages d'un livre ou d'une bande dessinée. Il savait quand il partait, jamais quand il reviendrait. Mis à part quelques nécessités physiques, aucune condition, aucun critère, aucune temporalité ne pouvait l'obliger à abréger son voyage. Les livres sont des magiciens qui peuvent faire disparaître les montres. Il l'avait oublié. Lu et approuvé. Bibliothèque sonore. Voilà, l'émission lu et approuvée de ce soir se termine, mais on est presque à l'heure. On a failli faire une émission d'une demi-heure, incroyable. Ce soir, nous avons lu pour vous La part des nuages de Thomas Vinau, V-I-N-A-U, aux éditions Alma Éditeur. Voilà, c'est paru très récemment, en août 2014, si mes souvenirs et ma mémoire ne me font pas faux bond. Du coup, voilà, vous pouvez nous contacter par mail, lu et approuvé, tout attaché sans accent, lu et approuvé, @guiad.org. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur le site, soit le site de Canal Sud, soit sur notre blog. Alors le site de Canal Sud, c'est www.canalsud.net. Notre blog, c'est lu et approuvé, tout attaché sans accent, .noblogs, N-O-B-L-O-G-S. Voilà, si vous voulez nous envoyer un courrier, vous pouvez le faire. Émission lue et approuvée, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Canal Sud aussi, il faut le glisser quelque part. Et puis bah, sinon, on se retrouve tous les mercredis à 23h30. Et puis peut-être qu'on sera bientôt précédé par une nouvelle émission, mais on vous laissera la surprise. Qu'ajouter d'autre, bah, si vous voulez nous proposer des lectures, vous pouvez le faire par mail à l'adresse que j'ai indiquée ou vous trouverez l'adresse sur notre blog. Et puis ben sinon, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On n'a rien oublié? Non, on n'a rien oublié. Bon, très bien, et ben bonne soirée sur Canal Sud et à la semaine prochaine.